certaines sectes se présentèrent à nos portes afin de tenter d'y exposer leur doctrine assez particulière. Très élevées, certes, ces personnes n'en cherchent pas moins à jeter le doute dans les esprits. Les laisser parler équivaut à entendre des choses bien étranges, voire blasphématoires, dites avec le plus grand sérieux et prétendument étayées par maints versets d'une certaine Bible. Plusieurs de leurs affirmations ont trait à Jésus-Christ, et l'une d'entre elles nie la réalité d'une divinité composée de trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Jésus n'est pas Dieu, avance-t-il, mais simplement l'archange Michel. Il me paraît utile et nécessaire de réaffirmer que Jésus est bien Dieu fait homme, mort, ressuscité corporellement, et dont le sang, offert sur la croix, purifie de leurs péchés tous ceux qui suivent ses enseignements. Les cristaux de sel que la marée laisse parfois derrière elle ne prouvent pas, bien sûr, qu'ils en soient l'élément le plus tangible, que la mer est strictement faite de sel. Le sodium se trouve être en solution dans l'eau de la mer, c'est tout. De même, la divinité de Christ se trouve en solution dans chaque page du Nouveau Testament. Chaque parole prononcée à son sujet, chacun de ses propres mots rapportés par les apôtres sont exprimés avec en filigrane la conviction de sa divinité. S'il n'en était pas ainsi, le Nouveau Testament lui-même perdrait son sens profond et devrait être éliminé. La conviction de la divinité de Jésus-Christ et le christianisme sont contemporains. Elle en était la base au temps des apôtres, elle est encore aujourd'hui. Il nous sera aisé, en utilisant quelques exemples bibliques, de démontrer que l'Évangile est littéralement saturé de l'idée de la divinité de Christ. Trois passages de Matthieu montrent le Fils de Dieu parlant d'une manière la plus familière, la plus naturelle du monde, de ses anges. Dans chacun de ces trois versets, il se désigne comme étant le Fils de l'homme, titre extrait du langage prophétique auquel Jésus tient beaucoup et qui suggère sa majesté. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Il enverra ses anges et ils rassembleront ses élus des quatre vents. Qui est donc ce Fils de l'homme qui possède des anges et par lequel le jugement final sera ordonné et exécuté? Le Nouveau Testament répond, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Qui est ce Fils de l'homme entouré de ses anges et qui tient le sort de notre âme entre ses mains? Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Il rassemblera ses élus des quatre vents, depuis les extrémités des cieux jusqu'à l'autre. Qui est ce Fils de l'homme sur l'injonction duquel ses anges trieront les humains? En étudiant le Nouveau Testament, on s'aperçoit que les anges dont il vient d'être question ne font pas partie d'un groupe spécialement affecté à Jésus, mais bien des anges en général. Ils le servent lorsqu'il en exprime l'ordre. En bref, Jésus se situe très loin, au-dessus des anges, et l'Épître aux Hébreux dit qu'il est d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Trois paraboles du 15e chapitre de Luc montrent Jésus se défendant contre les pharisiens qui l'accusent d'accueillir des gens de mauvaise vie et de manger avec eux. Il justifie son attitude envers les gentils en proclamant bien haut, « Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Pourquoi le Christ dit-il dans le ciel? Parce que ce qu'il décide est automatiquement sanctionné par le ciel. Il a amené le jugement du ciel sur la terre et montre à chacun ce qu'il va devenir pour le monde, qui est en fait le ciel descendu sur notre globe. Jésus détermine son action de recevoir et de manger avec des pécheurs comme une recherche des perdus, ce qui est une conduite toute naturelle pour le céleste, manifesté en Dieu et manifesté en lui. Sa défense consiste à dévoiler ce qu'est la véritable nature des actes qu'il pose. N'est-il pas le berger? La femme qui a perdu l'une de ses dix drachmes et le père du fils prodigue. Le Christ ne s'attribue jamais les noms qu'il porte, il les assume. Il ne se nomme jamais prophète, bien qu'il en accepte qu'on l'appelle ainsi. Plus, il se place lui-même au-dessus de tous les prophètes. même de Jean, le plus grand de tous. Jésus est celui vers qui les regards des prophètes de tous les temps se sont tournés. Il est désigné comme étant le Messie et montre, parce que cela implique les relations étroites qui le lient à son Père céleste, un représentant direct, son Fils. Jésus ne se contente pas de cette situation exceptionnelle par rapport à Dieu. Il va jusqu'à proclamer être dépositaire de l'entité divine, celui qui partage tout ce que Dieu possède. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, dit-il, et je vous donnerai du repos. Jésus parle en égal de Dieu. Venez à moi, tout comme venez à Dieu. Il va d'ailleurs dire à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ses prérogatives sont divines. Il lit dans les cœurs. Lorsqu'après sa résurrection, il se présente à ses apôtres, ceux-ci sont saisis de frayeur et d'épouvante, car ils croient voir un esprit. Et le Seigneur de leur dire, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Il pardonne les péchés. Souvenez-vous du paralytique à qui Jésus avait dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Un événement significatif va se dérouler, car Jésus, sachant ce qu'il pense, va prouver aux spectateurs qu'il a ce pouvoir divin et fantastique. Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Nous pouvons très bien, après cette scène, imaginer l'apôtre Paul parlant aux Philippiens. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout ce que Dieu possède et assure lui-même avoir, l'omnipotence, l'omniscience et la perfection, appartient aussi bien à son Fils qu'à lui. Non seulement le Christ est-il à la source des actes divins, mais de plus, c'est toute sa personne qui se fond dans celle de Dieu et du Saint-Esprit. Certains de ses disciples, on le sait, avaient tardé à admettre ou à reconnaître sa divinité. Cela n'était pas dû au fait qu'il n'était pas Dieu, mais tout simplement qu'il n'en avait pas à leurs yeux manifesté assez de preuves. La raison en était que ces hommes étaient assez sots ou lents quant à l'expression de leurs sentiments pour ne pas croire à l'évidence. Elle était cependant là, devant eux. Thomas, en s'adressant à Jésus, l'appelle « mon Seigneur et mon Dieu ». Et Paul, dans sa lettre à Tite, parle également d'un Christ qui est Dieu et Sauveur. L'apôtre Pierre témoigne de la même manière de sa divinité. Jésus, la parole éternelle, le Logos, le Verbe dont parle l'apôtre Jean, ne peut être que Dieu. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. S'il n'est pas divin, pourquoi est-il dit dans l'Épître aux Hébreux que tous les anges l'adorent? S'il n'est pas divin, pourquoi Étienne s'écrit-il juste avant sa mort en martyr, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit », pour quelques instants après, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». S'il n'est pas divin, comment se fait-il qu'il ait créé le monde et que c'est précisément lui qui le jugera au dernier jour? Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Jésus-Christ doit juger les vivants et les morts. S'il n'est pas divin, pourquoi affirme-t-il en parlant des Juifs, « Avant qu'Abraham fût, je suis » en Jean chapitre 8, verset 58. Nous divisons le temps en passé, présent et futur. L'expression « je suis » appliquée à Jésus montre bien qu'il ne mesure pas son existence de la même manière, qu'elle est continue sans variation depuis la nuit des temps avant la création du monde. Le Père n'est pas le Fils, ni vice-versa. Il partage la même nature avec l'Esprit-Saint. Le Christ est-il subordonné au Père? Oui, mais la Bible ne nous explique pas dans quel sens il l'est. Nous en arrivons maintenant à ce verset qu'utilisent avec opiniâtreté ceux qui tentent de prouver que Jésus-Christ n'est pas Dieu, celui où il est dit « le Père est plus grand que moi ». Cette affirmation de Jésus n'a pas pour objet de comparer sa nature à celle de son Père, mais bien sa condition il veut dire, et le contexte le montre bien, si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez avec moi de ce que je vais bientôt quitter cet état de souffrance et d'humiliation pour retrouver la gloire qui était mienne lorsque je me trouvais auprès du Père. Vous seriez heureux de voir l'exaltation qui m'habite à l'idée des béatitudes et de l'éclat qui seront bientôt les miens à nouveau, enfin. Tout ceci a pourvu de faire réagir les disciples en les consolant. Le départ est proche, et ils le savent. Jésus ajoute encore à tout cela la promesse formelle de la venue du Saint-Esprit après son départ. Il les rassure encore davantage en leur disant, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. » En bref, si je ne pars pas, le Saint-Esprit que je dois envoyer ne pourra venir. Dans le plan du salut, le Père est représenté comme donnant le Fils et le Saint-Esprit, ainsi que les différentes bénédictions de l'Évangile. En tant que dispensateur, nominateur, celui qui est à l'origine du tout, on pourrait peut-être aller jusqu'à le considérer comme occupant une fonction, une charge supérieure à celle du Fils et du Saint-Esprit. Mais le passage dont nous parlons ne se réfère manifestement pas à la nature de Jésus. Il ne peut par conséquent être utilisé pour prouver que le Fils de Dieu n'est pas divin. Le passage où Jésus déclare que le Père est plus grand que lui doit absolument être relié à son contexte strict. Alors, il pourra être interprété ou compris comme ayant trait uniquement à la dispensation des bénédictions allant de pair avec la rédemption. Le Fils est l'envoyé, celui qui a été offert, et c'est uniquement à cause de cette mission qu'il est subordonné à celui qui l'a envoyé, offert, son Père. Dans l'économie de la rédemption, le Christ se trouve être à la fois en subordination et en égalité essentielle. De même, le Père n'a jamais été le solitaire de l'éternité, puisque la divinité est éternelle en essence. Dieu, Christ et l'Esprit ne sont jamais restés sans quelqu'un à aimer. Lorsque nous pensons à Dieu, il devient notre Père par la création. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, dit Actes chapitre 17 et verset 28. Dieu le Fils, nous le voyons en tant que Dieu manifesté dans la chair, qui est mort pour notre rédemption. Il est pour nous la révélation du Père, celui qui règne en roi et en avocat à la droite de Dieu. L'Esprit n'est-il pas notre compréhension assez simpliste, celui qui guida les apôtres et les prophètes dans toute la vérité et convainquit les hommes à propos du péché, de la justice et du jugement à venir ?